Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es parfait, tu es extraordinaire. Tu n'es pas seulement cet être qui est venu au milieu de nous et qui a marché au milieu de nous à travers l'histoire, prenant notre nature, totalement homme et totalement Dieu. Tu es plus que ça. Tu es infini et dans ton amour, tu as voulu venir au milieu de nous, nous montrant cet amour du Père, du Dieu créateur, qui ne reste pas abstrait pour nous, mais tu as marché au milieu de nous montrant cet amour en devenant comme nous. Cet amour est allé jusqu'à payer le prix à notre place pour nos péchés, pour notre errance, pour notre éloignement. Et tu es devenu un sacrifice expiatoire. Et par ce sacrifice, nous pouvons venir auprès du Père, réconcilié, accepté, pardonné. Tu es monté auprès du Père et tu règnes pour toujours, mais tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas laissés orphelins, parce qu'en échange, tu nous as envoyé ton Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur de chacune ou de chacun qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur. Tu habites dans mon cœur par l'Esprit Saint. Et je t'en remercie parce que c'est la meilleure des cadeaux que tu peux me faire. Je te remercie pour toutes les circonstances. Joie ou peine. Parce que dans toutes circonstances, tu règnes, tu contrôles toutes choses à la perfection. Au point que je deviens spectateur qui admire ton œuvre. Merci pour cette matinée, merci pour ce que nous avons partagé ensemble. Et bien, je remets entre tes mains ce modeste partage que nous allons avoir maintenant autour d'un passage dans l'évangile de Marc. Que ça parle à chacun de nous et à moi le premier. Et que je puisse garder que ce qui vient de toi et nettoyer, Seigneur, tout ce qui vient de l'homme, parce que ce qui est parfait, c'est seulement ce qui vient de toi. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons continuer notre méditation dans l'évangile selon Marc et nous sommes dans le chapitre 2 et nous allons nous intéresser aux versets 1 à 12. Alors je vais lire Marc chapitre 2 versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors voilà un passage, on pourrait dire c'est de la fiction, c'est de l'histoire, et souvent on dit, c'est arrivé il y a un peu plus de 2000 ans. Donc nous le ressassons avec une certaine prudence de dire, il ne faut pas s'aventurer parce que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Comme si Dieu n'était pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est Dieu. Et ce qu'il fait, ça nous dépasse. Et il est apte de faire tout ce qu'il veut. Nous sommes en admiration de ce qu'il fait. Les hommes ne peuvent rien faire, tout cela. Mais Dieu peut. Quelques jours après, voilà notre passage commence par quelques jours après. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé avant. Si on nous dit quelques jours après, ça veut dire que l'auteur est en train de nous dire, attention, quelques jours après, mais rappelez-vous de ce qui s'est passé avant. C'est comme s'il y a un lien avec ce qui s'est passé avant. Si on dit quelques jours après. Quelques jours après quoi? Eh bien, excusez-moi, je vais faire un rappel. Parce que ce rappel, si on ne le connaît pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce qu'il nous dit quelques jours après, ça veut dire, rappelez-vous ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a la dernière fois, il n'était pas là. Donc, ça pas ce qui s'est passé quelques jours après. Si je ne comprends pas ce qui s'est passé quelques jours après, ce n'est pas la peine d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a eu les jours précédents? D'abord, il y a eu l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la première chose que le Seigneur a fait. Rappelons-nous de ça, parce qu'on oublie. La première œuvre, il est rentré dans une synagogue et il a annoncé la bonne nouvelle. Donc, la première chose que le chrétien est appelé à faire, c'est annoncer la bonne nouvelle, pas les miracles. Souvent, donc, rappelez-vous notre histoire, on est miracle. Non, non, la bonne nouvelle, c'est le plus grand miracle. Annonce de la bonne nouvelle suivie d'une délivrance d'une personne possédée par un démon. Annoncer la bonne nouvelle, ça dévoile les mensonges du diable. Automatiquement, dès qu'on annonce la bonne nouvelle, le diable tremble et se sauve. C'est pas d'aller le combattre. Non, juste pour annoncer la bonne nouvelle. Et il sait à qui il a affaire. Après, il y a eu accueil dans la maison de Simon et son frère André, où il y a eu une guérison de la belle-mère de Simon. Il y a eu beaucoup de guérisons et de délivrances. Il a guéri la belle-mère de Simon pour le servir. Il y a toujours une raison. Ce n'est pas pour le spectacle que le Seigneur fait des miracles et des guérisons. Il insère toujours ça dans un plan qui nous dépasse, c'est le sien. Mais quand il a guéri la belle-mère, c'est parce qu'il voulait qu'elle le serve. Et servir le Seigneur, qu'est-ce qui est le plus grand? Simon et son frère ont accueilli les seigneurs dans leur maison. Ils étaient avec lui dans la synagogue, mais ils ne se sont pas dit, « Ah non, non, le Seigneur, on le connaît juste à l'église, à la synagogue. » On peut le dire, nous aussi, aujourd'hui. « Attendez, je suis chrétien le dimanche matin. Mais quand je sors d'ici, j'attends dimanche prochain. C'est là où je rencontre le Seigneur. » Oui, donc on peut avoir... Je caricature, mais ce n'est pas si caricatural que ça. Souvent, on vient le dimanche, « Je suis chrétien, mais je sors dans la vie. » Quel témoin j'ai. Ma vie me condamne à se demander si j'ai une conscience. Le Seigneur, c'est le dimanche, 24 heures sur 24, là où je suis, y compris chez moi. Simon et son frère ont accueilli le Seigneur chez eux, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur cœur, 24 heures sur 24. Avant, les jours précédents, le Seigneur nous a montré que tout chrétien doit avoir une vie de prière. Le matin de bonne heure, le Seigneur se lève, il prévient personne et part dans le désert, tout seul, avec son Père et en train de prier. C'est ce qu'il nous montre les jours précédents. Il est en train de nous dire, on ne peut pas être chrétien sans vie de prière. Surtout, une prière intime, tout seul avec notre Dieu. Certes, il y a la prière collective, ça fait partie, mais il faut avoir une vie d'intimité dans la prière où, moi seul, avec Dieu, on parle. J'ai envie de dire presque comme des fous. Heureusement qu'on ne me voit pas en train de parler au Seigneur dans mon bureau. La vie de prière, comme le Seigneur nous le montre. Et quand il était dans la prière, dans le désert, tout le monde se mettait à le chercher. Il est dit, beaucoup se mettaient à le chercher. Seuls les disciples l'ont trouvé. Dans le passage avant. Pourquoi? Les disciples savent où il est le Seigneur. Si nous sommes des chrétiens, nous savons où trouver le Seigneur. Où?
dans la prière. Alors que les autres ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas le Seigneur. Ils cherchaient ce qu'ils faisaient. Ils voulaient voir les miracles. Et comme ils cherchaient que les miracles, ils ne trouvaient pas. Cherchant le Seigneur avec une sincérité du cœur, dans la prière, c'est la communion. C'est dans la prière que le Seigneur nous attend. D'ailleurs, sachant que les gens le cherchaient, c'est ce qui est dans les passages avant, sachant que le Seigneur a vu que les gens le cherchaient, la réponse du Seigneur, c'était quoi? Quand les disciples lui ont dit, beaucoup tu cherches, mais il ne leur a pas dit, ils sont où? Je vais aller vers eux. Non, regardez, c'est un peu bizarre sa réponse. Hein. Il leur dit, allons ailleurs, afin d'y prêcher, car pour cela que je suis venu. Il est en train de dire, laissez-les, ils me cherchent pour les miracles, tout ça. Allez, laissez-les. Il n'a même pas répondu. Non, on va aller ailleurs. Toujours quoi? L'annonce de la bonne nouvelle. En disant cela, le Seigneur ne néglige pas les prodiges, les miracles et les guérisons qu'il peut accomplir, mais il met les choses dans l'ordre, tout simplement. D'abord, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est le plus grand des miracles qui peut nous arriver. Ensuite, ce grand miracle peut se transformer par la volonté de Dieu, par une information visible à travers un miracle physique, par exemple. Il faut toujours inscrire le miracle dans un processus. C'est-à-dire que le miracle qui s'accomplit n'est rien d'autre qu'une information visible d'un grand miracle qui se fait qu'on ne voit pas dans les cœurs. Sinon, à quoi ça sert le miracle? Puisque on peut avoir les meilleurs miracles dans le corps un jour disparaîtra. Donc on va en profiter quoi? 20, 30, 40, 100 ans? S'il n'y a pas le plus grand miracle du cœur, celui-là, il est éternel. Parce que le cœur passe, le reste reste pour l'éternité. N'oublions pas cela. Après cet enseignement qui donne la primauté au miracle qui se déroule dans le cœur, le Seigneur lui donne une signification visible à travers la guérison du lépreux. Voilà ce qui s'est passé avant. Je suis toujours dans les jours avant. Le lépreux. Pourquoi la guérison du lépreux? Nous, on va dire, oh, regardez, les mains sont... Mais il y a un sens. Pourquoi le lépreux? Pourquoi il est question de la lèpre? La lèpre est une maladie contagieuse, chronique, grave, responsable d'invalidité majeure, avec des séquelles graves consécutives aux atteintes nerveuses et cutanées, et des complications graves qui mènent souvent à la mort. Et quand on lit l'Ancien Testament, la lèpre est une image, mes frères et sœurs, du péché. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Nous, on se limite seulement au miracle visible. Il est en train de nous dire. Oui, je suis en train de vous montrer des choses simples, visibles, mais c'est l'information visible, quelque chose qui doit se faire dans les cœurs, dans les profondeurs. Et souvent, on néglige cela. Elle commence par une petite tache qui grandit jusqu'à déformer le corps et provoquer la mort. Le péché commence aussi par des petites taches, petits mensonges, petites moqueries qui s'attaquent à l'âme et la détruisent peu à peu. Et souvent, il suffit juste d'ouvrir un petit peu la porte. Dès que le péché met son pied, il pousse. Il nous mène à la mort. Le péché commence toujours comme ça. En fait, le récit de la guérison du lépreux, juste après la mise au point du Seigneur sur l'importance de le chercher, lui, en tant que chemin, vérité et vie, accomplit en nous le plus grand miracle, celui du pardon et de la libération du péché. La lèpre, c'est le péché qui est dans notre cœur. Nous avons besoin de nettoyer cela. Si nous sommes chrétiens et nous continuons à côtoyer le péché dans notre vie, nous sommes des lépreux. Nous avons besoin que le Seigneur nous guérisse. En purifiant le lépreux, Jésus montre ce que signifie sauver les hommes. C'est leur permettre de passer de la mort à la vie. C'est le principal miracle qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous emmène à détester, à haïr le péché. Un chrétien qui ne hait pas, qui ne déteste pas le péché, n'est pas chrétien. Je répète, un chrétien qui ne dénonce pas le péché, qui côtoie le péché, qui ne hait pas le péché, n'est pas digne d'être disciple du Seigneur. Et si nous ne sommes pas conscients de cela, continuons à marcher ainsi. Et le jour viendra où le Seigneur viendra nous chercher, il nous regardera. Est-ce que tu as au moins dénoncé ce que tu as vécu dans ta vie là? Il va nous noter ça. Non, ce n'était pas grand-chose, Seigneur. Ah bon? La lèpre commence pareil. Ce miracle invisible qui se fait en nous est une sorte de remise en mouvement. Quand on est lavé, quand on est de ce péché, de cette lèpre qu'on appelle le péché, on est remis en mouvement. D'immobile que nous étions, nous sommes remis en mouvement. C'est l'un des sens d'un des passages du livre d'Ésaïe, que vous connaissez certainement. Ésaïe, chapitre 53, verset 5, je vous le lis. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un des sens du verbe rapha en hébreu, guéri. Une autre traduction dit, nous sommes remis en mouvement. Cette remise en mouvement, conséquence de l'œuvre du pardon dont nous avons besoin. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez expérimenté le pardon de Dieu? Est-ce que vous l'avez expérimenté au fond d'eux-mêmes? Regarde, le Seigneur, il a dit tout à l'heure, quand on l'a lu, il a dit, il a su ce que l'Esprit pensait de lui, où? Dans son esprit. Donc, ça veut dire que nous, quand le Seigneur nous parle, il nous parle dans notre esprit. C'est-à-dire cet esprit en nous, dans lequel l'Esprit peut nous parler. Est-ce que nous avons reçu cette confirmation dans notre esprit que nous sommes pardonnés? Et pour être pardonné, il faut être conscient de ses péchés. Est-ce que nous sommes conscients d'être pécheurs? Est-ce qu'on les a confessés? Si le miracle se limite au corps, nous savons que le corps n'est pas éternel, je l'ai dit. Donc quel intérêt si ce n'est un bien-être temporaire qui ne nous garantit pas spécialement un bien-être intérieur sans une guérison intérieure? Et pour les hommes, les gens adultes, sans guérison intérieure, cette guérison physique peut faire l'effet inverse. Qui me dit que ce paralytique, si le Seigneur l'avait guéri sans qu'il reçoive la guérison de son cœur, en devenant apte, il a un corps pour faire du mal. Alors quand il dit paralytique, il ne touche personne. Pourquoi je n'ai pas le droit de penser ça? Donc j'ai besoin d'une guérison intérieure qui transforme mon corps et le rend au service de l'esprit. Et maintenant, quelques jours après, vous voyez, tout ça s'est passé, et maintenant, on peut comprendre maintenant quelques jours après. Quelques jours après, un grand nombre de personnes venaient le trouver. Il y avait de tout, ceux qui venaient le voir. Il y avait les sincères, les curieux, les faux, les hypocrites, il y avait tout. Les religieux, il y avait tout en fait. Tout ce monde venait le voir. Et parmi eux, il y avait un paralytique. Quelqu'un qui ne bougeait pas. À tel point qu'il ne pouvait pas venir de lui-même. On l'emmenait vers le Seigneur. C'était un, je dirais, quelqu'un en fait qui, je dirais, qui a envie d'eux, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. C'était quelqu'un, peut-être en souffrance. Ce paralytique a de la chance qu'on le porte et quand on l'emmène vers le Seigneur. On zappe, on met de côté tout de suite ces quatre personnes qui l'ont amené, alors qu'ils s'en sont trop. Est-ce que nous jouons ce rôle-là, nous? Est-ce que nous faisons partie de ces quatre personnes? Leur place est grande auprès du Seigneur. On parle du paralytique, mais on oublie les quatre qui emmènent. Est-ce que nous, nous soutenons, nous apportons des gens, même situation auprès du Seigneur? Il y a un silence auprès de ces quatre, mais j'ai envie de dire, c'est les plus grands de tout le récit. Je voudrais bien savoir ce qui est arrivé à ceux qui l'ont porté et fait entrer par le toit. Ils ont pris des risques. On les oublie rapidement, et pourtant ces gens ont fait quelque chose de grand. Ce sont les véritables serviteurs qui demeure dans l'ombre. j'ai envie de dire, soyons comme ces serviteurs-là. On ne parle pas de nous, mais c'est le plus important.
Le paralytique fut apporté au Seigneur en présence des scribes. Le Seigneur Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais chose étonnante, juste avant, il est écrit, « Jésus voyant leur foi, là aussi on zappe. » Il n'est pas dit, « Voyons la foi du paralytique. » Non, « Voyons la foi qui portait le paralytique. » C'est très important. Les personnes qui emmènent le paralytique au Seigneur étaient sincères et avaient une foi vivante, au point que le Seigneur l'a détecté en eux. Et parce qu'il y avait cette foi, le Seigneur a fait du bien au paralytique. Donc souvent on dit, oh, c'est le paralytique qui doit préparer, c'est lui qui doit trouver le Seigneur. Non, non, ceux qui l'accompagnent ont une responsabilité en apportant avec leur foi. Et c'est ce qu'il dit, leur foi a marqué le Seigneur. Ça paraît bizarre, et pourtant c'est du simple bon sens. Ça s'adresse à nous en tant que chrétiens. Quelle est notre foi quand nous amenons des gens au Seigneur, ou nous voulons amener des gens au Seigneur? Souvent on veut servir le Seigneur. Avons-nous la foi? Sommes-nous sérieux avec le Seigneur? Quelle est notre marche avec le Seigneur? Autrement dit, sans foi, on ne peut pas porter les gens vers le Seigneur. C'est pas possible. L'amitié et la proximité ne suffisent pas. Ça, c'est des choses du monde. Mais alors qu'on parle d'éternité, là. La foi n'est pas simplement une proclamation de la bouche, mais une attitude et une vie marquée par le sérieux dans notre vie chrétienne, dans la crainte de Dieu et dans une certaine piété, que ce mot disparaît dans ce monde. Il y a de moins en moins de piété. C'est le message pour tous les serviteurs de Dieu. Sans foi, on ne peut pas le servir. Il ne peut pas y avoir de fruits sans foi vivante. On peut avoir la meilleure formation théologique du monde, ça ne remplace pas la foi vivante. Quant au paralytique, qui était une personne impuissante, privée de toute capacité d'action, elle ne pouvait rien faire d'autre que de se laisser porter. Je ne vais pas la criminer, cette personne, elle ne peut pas rien faire d'autre. Elle dépend de ceux qui l'entourent. Et ceux qui l'entourent doivent avoir la foi pour l'amener vers le Seigneur. Ça se peut qu'il ne savait même pas où on l'amenait. Tout ce que cette personne savait, peut-être, c'est qu'on allait essayer une énième fois un remède, une miracle magique. On va essayer si ça marche. Donc on ne va pas l'incriminer, cette personne paralytique. Il a entendu parler, cette personne parler de ce Jésus qui fait des miracles. Croyez-vous que cette personne s'est mise à se poser des questions avec des hypothèses, thèses, antithèses, synthèses? Attendez, laissez-moi là, je vais réfléchir, je vais vous dire s'il faut m'amener ou pas. Ça, c'est nous, ça. Quand on est dans le feu de l'action, on ne cherche qu'une chose, emmenez-la où vous voulez, du moment que je trouve le bonheur, le bien-être. Sa situation ne lui permet pas. Il se laisse porter pour aller vers celui qui peut le remettre en mouvement. Peut-être que sa paralysie est un témoignage pour ceux qui ont une paralysie pire que celle du corps, la paralysie du cœur. Et celle-là, elle mène à la mort éternelle. Alors, au lieu de le remettre en selle, voilà le Seigneur qui lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Cette phrase a certainement résonné dans le cœur du paralytique, ça fait plusieurs années certainement, dans cette situation-là, au point de lui faire oublier sa paralysie. Il a certainement réalisé à travers une paix profonde que quelque chose s'est passé en lui. Les choses peuvent aller vite avec le Seigneur. C'est nous qui faisons les choses, le temps, un mois, une semaine, un an. Un examen de conscience fait son effet d'une manière miraculeuse. Ce paralytique avait besoin de pardon. Il a réalisé qu'il a le pardon de celui qui l'a créé et qui le prépare pour l'éternité. Qui dit pardon, dit avoir conscience de ses fautes, de ses erreurs, de ses péchés. Et là, je parle. Cette personne, elle est adulte. Des péchés contre soi-même, peut-être des péchés contre les autres, peut-être des petits péchés, on ne veut pas s'en libérer. On a dit, c'est pas grand-chose, et pourtant, le Saint-Esprit met le doigt dessus. Mais la véritable prise de conscience, c'est de réaliser qu'à travers ces péchés,
nous péchons contre Dieu. Et c'est ça le plus grave. En faisant du mal à son prochain, je fais du mal à mon Créateur. Si je ne réalise pas ça, je ne comprends pas le péché. C'est le sens de la repentance qui est une prise de conscience du péché qui nous habite, ce qui fait de nous des rebelles et des adversaires de notre Créateur. Une repentance qui suscite immédiatement un désir de pardon, accompagné de changements d'attitude et de comportement. Est-ce que je suis en train de vous raconter? Peut-être le paralytique ne l'a pas vécu, mais ceux qui l'ont porté l'ont vécu. Et parce que ceux qui ont porté le paralytique l'ont vécu, eh bien, ils ont vécu dans la foi, et le Seigneur l'a vu, et là, il l'a dit. Le pardon devient alors le miracle libérateur qui met le paralytique en mouvement. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le corps qui se restaure et qui se remet à bouger, qui se remet en mouvement, est l'information miraculeuse, visible, d'un pardon miraculeux, invisible, qui s'est déroulé dans le cœur du paralytique adulte et de ceux qui l'ont porté. N'oublions pas ceux qui l'ont porté aussi. Cela, les scribes, les gens de la loi ne le comprennent pas. La religion ne peut pas le comprendre. La théologie ne peut pas l'expliquer non plus. Parce que c'est des choses qui se passent entre Dieu et la personne par l'esprit. Si nous ne comprenons pas le pardon miraculeux, le poids du pardon, nous ne pouvons pas comprendre le sens de la guérison. Il nous sera très difficile de comprendre ce que le Seigneur a dit au paralytique. Le paralytique n'a pas exprimé sa foi en venant à Jésus. Ce sont d'autres personnes qui l'ont apporté à Jésus. Et pourtant, le Seigneur lui a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Dès qu'on naît, on hérite des péchés de nos ancêtres, y compris jusqu'à Adam. Le péché, ce n'est pas parce que je regarde les apparences, tout va bien. Non. Déjà, le fait d'être satisfait, c'est un péché. Mais être conscient, en tant qu'humain, je me rebelle contre Dieu, je ne veux pas croire en Dieu, je ne veux pas que Dieu soit au-dessus de moi, je veux devenir moi-même le maître de ma vie, je deviens moi-même Dieu, je suis déjà dans le péché, donc je suis obligé de me repentir. Cette repentance a mené à la foi, au pardon du péché, jusqu'à la restauration du corps. Et je précise encore une fois, nous sommes venus avec un corps adulte, quelqu'un qui était plusieurs années dans cet état. Cet ordre est confirmé d'ailleurs dans les actes des apôtres concernant la conversion, repentance, foi, baptême. Ce récit-là nous montre le chemin de tout chrétien normalement. Souvent quand on dit, alors vous êtes chrétien, levez la main, je suis chrétien, ça y est, tu es sauvé. Non, quand on voit les actes des apôtres, toute personne, quand elle reçoit l'appel, et en général, il faut avoir un certain âge de conscience pour décider. Un petit enfant ne peut pas décider. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain âge. Chez les Hébreux, c'est la majorité conscience. Ça commence à 13-14 ans, mais tout dépend des personnes. Ça commence toujours par la repentance. C'est-à-dire que la personne prend conscience qu'elle avait besoin de Dieu, Dieu l'a cherché, mais elle n'a jamais voulu chercher Dieu. Donc toute sa vie était contre Dieu par sa vie. Elle vivait dans le péché. Prendre conscience et décider de changer en demandant pardon à Dieu. Ça ouvre la porte à la foi. Et cette foi nous dit, le Seigneur est là, il a payé le prix pour nous pardonner. C'est seulement après tout ce qu'on a vécu comme expérience, comme je viens de vous dire, on lui donne sens par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est la repentance, la foi. Et ainsi, j'ouvre la porte, ce qu'on appelle la vie dans l'esprit, à laquelle tout chrétien est appelé. La vie chrétienne est un long chemin périlleux, mais tranquille avec et dans le Seigneur, où il faut tenir par la grâce de Dieu. On commence par l'appel, on doit tenir car au bout il y a l'élection. Il faut se lever, prendre son lit et marcher. Voilà ce qu'il a dit le Seigneur au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il est en train de nous dire, je fais le premier pas. À toi maintenant de marcher. Ça nous responsabilise. Souvent on dit, le Seigneur fait tout. Non, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Marche, ça veut dire en fait, je dois chercher le Seigneur. Je dois prier, je dois être sérieux dans ma vie. Je suis chrétien, c'est un prix à payer. Marche, pas. Non. Ça, on l'oublie. La vie chrétienne est un long chemin périlleux, mais tranquille avec le Seigneur. Marcher, mais marcher comment? Marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire marcher en portant les fruits dignes de la repentance. Cette marche s'appelle dans la Bible la sanctification. C'est-à-dire le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, je lis « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification est le chemin qui nous fait passer de la vie chrétienne charnelle à la vie spirituelle. La vie dans l'esprit n'est pas une option. C'est le chemin que tout chrétien désireux de faire partie de l'Église que Dieu prépare comme épouse céleste lorsque son Fils viendra la chercher. Nous sommes appelés à vivre dans l'esprit. Il ne peut pas y avoir vie dans l'esprit si on ne passe pas par la repentance, la foi. La vie spirituelle ne se fabrique pas, elle ne se donne pas en claquant des doigts. Nous ne pouvons rien faire, certes, ça c'est vrai. Mais cela ne doit pas justifier notre errance, ne doit pas justifier notre vie indigne du Seigneur. Nous pouvons et devons faire une seule chose. La Bible nous dit on peut faire une seule chose, pas plus, une seule chose. Celle de chercher le Seigneur. Alors mettons-nous à le chercher. Je termine par... Il y a un livre que je suis en train de lire et il traduit... Vous voyez, quand on dit « je suis sauvé ». Souvent, chez les chrétiens, on dit ça et « je suis sauvé ». Je suis chrétien, je suis sauvé. Et il dit que souvent, c'est une expression du sauvé qui justifie beaucoup de vie dans le péché. Il y en a du mot quand on dit « je suis chrétien », le mot « chrétien », même descendant de chrétien, on dit ça et « je suis sauvé pour l'éternité ». Et lui, il donne une autre traduction de « être sauvé ». Vous savez comment il l'a traduit? Je trouve très parlant. Il dit « au lieu de traduire « être sauvé », il faut traduire « être en train d'être sauvé ». Être en train d'être sauvé, c'est en anglais, je crois qu'on dit. Être... Sauvé, ça y est, c'est fait maintenant. Maintenant, je peux mener ma vie, maintenant, tranquille. Oh, Dieu pardonne, hein. Si je pêche aujourd'hui, demain, je ne sais pas. C'est pas ça. C'est-à-dire que je suis en perpétuel changement de vie, en harmonie avec le Seigneur, pour être sûr d'être sauvé. Eh bien, mes frères et sœurs, à travers ce que j'ai lu, je me suis rendu compte que nous sommes sauvés tant que nous marchons avec le Seigneur, en laissant le Saint-Esprit appliquer dans notre vie le message de la croix. Nous sommes sauvés tant que nous cherchons le Seigneur avec un cœur sincère craignant Dieu. Nous sommes sauvés tant que nous laissons l'Esprit de Dieu vivifier notre conscience. Nous sommes sauvés tant que nous portons les fruits dignes de la repentance. Nous sommes sauvés tant que nous cherchons quotidiennement le Seigneur et que cette recherche nous transforme et fait de notre vie un témoignage vivant dans notre entourage. Le Seigneur fait des miracles, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il responsabilise non seulement le paralytique, mais ceux qui le portent, c'est-à-dire tous les chrétiens. Je termine par les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Voilà ce qu'il dit. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Mais je cours, oui, il marche. C'est ça, marcher. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est l'apôtre qui le dit. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, et ensemble, nous marchons. Amen.